Également de vous remercier d'être venu ce soir pour une thématique qui va durer quand même 4 heures. Je vous admire. 4 heures d'affilée, donc c'est bien. Alors, vous m'avez connu sur des conférences passées, notamment l'histoire, la conquête spatiale. Pour la première fois, on va parler de prospective. On ne parlera plus du passé, mais du futur. En effet, la NASA et l'Agence spatiale européenne, entre autres, mais ils ne sont pas les seuls, les ont rejoints les Sud-Coréens, les Chinois et les Japonais, ont des projets pour la conquête spatiale. Alors, d'abord, un bref historique pour voir d'où nous venons. Nous sommes au tout début de la conquête spatiale. Alors, au XXe siècle, nous avons connu effectivement des progrès fantastiques en matière de propulsion des fusées, les fameuses V2. À partir des années 50, dans le cadre de la guerre froide qui a vu s'affronter les États-Unis d'Amérique et l'URSS, une course contre la montre s'est mise en place pour savoir qui, pour des raisons de prestige, allait pouvoir enfin décrocher le gros lot, en quelque sorte, avoir la primeur pour tourner autour de la Terre, voire pour la conquête de la Lune. Et au départ, il faut bien l'avouer, ce sont les Soviétiques qui ont eu un temps d'avance. Ils ont réussi avec Sputnik, avec le prestige, avec le côté science, etc., avec le message subliminal, nous avons réussi à placer effectivement un satellite qui a pu tourner, donc nous sommes les plus intelligents et les plus forts. Nous sommes le pays de la rationalité. Et les États-Unis ont été meurtris dans leur fierté et dans leur honneur. Ainsi, ils ont décidé de mettre les bouchées doubles et à partir notamment de l'arrivée de John Fitzgerald Kennedy, ils ont décidé d'allouer quasiment des budgets illimités à la NASA. Il n'était pas question pour les Américains de se faire doubler sur la conquête de la Lune. Et Kennedy prononcera son fameux discours avant la fin de la décennie. Nous serons sur la Lune. Personne n'y croyait. C'est pas possible, il y a quand même des problèmes. Il a fallu plusieurs missions, etc. À ce sujet, je vous recommande fortement de voir le film « Les figures de l'ombre » qui donne un éclairage passionnant sur... Oui.
Justement, à propos, je vais dire qu'on va faire une conférence avec le 7 juin.
Très bien. Un film fabuleux, entièrement véridique. Et contre toute attente, alors que ce n'était pas gagné, les Américains, je rappelle, avaient à la fois à gérer la guerre du Vietnam, à gérer les forces de l'OTAN, et ils ont quand même mis les budgets nécessaires pour pouvoir placer des astronautes sur la Lune. J'en profite pour un peu de quiz. Combien d'astronautes ont-ils foulé le sol lunaire? C'est votre dernier mot? Vous êtes sûr? Pas de regret? 11? 11? Et la réponse était 12. C'est 12. 12 personnes ont foulé le sol lunaire. Il faut savoir que, grâce aux missions habitées, on a pu récupérer jusqu'à 382 kg de poussière lunaire. Et le problème, c'est que quand on a 382 kg en plusieurs voyages qu'on a pu récupérer, eh bien, quand ces poussières ou ces restes de roches lunaires arrivent sur la Terre, eh bien, la qualité n'est pas aussi préservée qu'on pourrait le croire. Et la question se pose, d'où, parmi les projets, un projet chinois bien avancé, qui pourrait voir le jour en 2017, voire 2018, de récupérer par une mission non habitée 2 kg de roche lunaire. Si les Chinois arrivent à ce résultat, ce sera la première fois dans l'histoire qu'une mission non habitée aura été capable de récupérer autant de spécimens. Il a fallu toujours une mission habitée pour les récupérer. Et à partir des années 72, les Américains, qui avaient conquis la bataille du prestige, se sont progressivement désintéressés de la Lune. Elle ne présentait aucun intérêt. Aucun. Et pourtant, on se trompait. Car les Américains vont développer leur navette spatiale, qui a été un immense progrès dans les années 1980-81, avec la navette Columbia, Challenger, etc. Hélas, pour les Américains, deux coups d'arrêt. Un premier coup d'arrêt en 1986. L'explosion de la navette. Et ensuite, un deuxième coup d'arrêt dans les années 2000, où il y aura un problème. À tel point que la navette spatiale va être rangé au rang des antiquités. Au départ, il y avait les fusées Soyouz, soviétiques, et la navette, qui était une sorte un petit peu d'appareil à tout faire. À partir du moment où la navette spatiale a été mise au rancard, il n'y a plus de fait que les fusées Soyouz, qui sont un petit peu des tracteurs, c'est solide, mais c'est archaïque, et qui sont capables de mettre en orbite. Si on n'avait pas les Russes ou les Soviétiques, on serait assez mal en point.
Et Ariane.
Et Ariane, mais Ariane, mais place des satellites. Mais le problème dans la conquête spatiale, c'est qu'il faut aller vers les vols habités pour pouvoir progresser, donner de nouveaux challenges pour relever le gant. Et on s'est retrouvé avec les Américains qui ont commencé à réduire drastiquement les budgets dans les années 2000, à tel point qu'on s'est retrouvé tout simplement, à partir de 2010-2011, à réfréner les budgets. Mais, paradoxalement, on rentre vers un système plus mature. Que se passe-t-il ? Jusqu'à présent, on était sur la Lune, on a envoyé des sondes, Pioneer, Voyager, etc. On a exploré la galaxie. Mais on est vraiment à la genèse de la conquête spatiale. On est au tout début, un petit peu comme pour la conquête de l'Amérique. Si on était en 1492, 1494, on n'a rien vu. On n'a pas encore connu Cortés, on n'a pas connu Pizarro. On est loin de la conquête et, j'allais dire, de l'occupation physique du terrain. Or, on s'aperçoit que un élément clé, les ressources sur Terre vont progressivement s'épuiser. Et oui, les ressources vont s'épuiser et elles ne sont pas éternelles. Certaines vont s'épuiser au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 80 ans. Que va-t-on faire une fois que ces ressources sont épuisées? Il n'y a pas d'alternative. Sur Terre, on a tellement utilisé un rendement fort qu'on s'est retrouvé avec un épuisement des ressources. À moins que ces ressources manquantes sur Terre ne se retrouvent dans l'espace. Et précisément, interviennent maintenant les nouveaux acteurs. Les Chinois, avec le personnage Chang, il y a les Américains, il y a les Sud-Coréens. Le challenge, le premier challenge, c'est revenir sur la Lune. Non pas pour une question de prestige, mais pour justement essayer progressivement d'envisager la conquête des sols. Et on pense que sur la Lune, il y a énormément de choses intéressantes. En clair, on peut retrouver de l'hélium-3. L'hélium-3, on pense, d'après les statistiques, qu'il y en aurait jusqu'à 100 000 tonnes à la surface de la Lune. Or, en France et dans le monde, il n'y a pas beaucoup. Là-bas, à la Lune, avec le fait effectivement que cet hélium-3 est prisonnier, on peut le récupérer et c'est hyper utile pour de nombreuses applications scientifiques. Le problème, c'est comment faire. Parce que jusqu'à présent, si vous envoyez des individus sur la Lune, alors il y a des missions courtes. Je vois, missions courtes. Alors vous avez les missions Apollo, où les personnes sont restées 1, 2, 3 jours. C'est pas terrible. Vous avez l'ISS, qui elle est en orbite basse, donc elle bénéficie du champ gravitationnel de la Terre. Ce qui veut dire que les personnes qui travaillent dans l'ISS ne supportent pas toutes ces radiations. Or, dans l'espace, si vous travaillez pendant de nombreuses semaines, les radiations sont telles que vous pouvez voir changer votre ADN et générer des cancers. On ne peut donc en aucun cas prendre le risque d'envoyer durablement des astronautes, cosmonautes, spationautes dans l'espace sans réelle protection. Mais qui dit protection dit en même temps alourdissement de la protection, c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà pourquoi on envisage de mettre en place une sorte de système un petit peu comme une imprimante 3D. Imprimante 3D qui va pouvoir dupliquer avec les roches locales présentes sur la Lune une base qui pourra permettre d'héberger et d'abriter une colonie humaine. Certes, ce n'est pas pour tout de suite, mais l'expédition chinoise a pour but de pouvoir justement travailler dans ce domaine en développant ce qu'on appelle un rover qui va d'abord faire les travaux préliminaires d'approche. Et ensuite, si on arrive à mettre en place cette imprimante 3D qui mettrait une sorte de base qui va protéger les différents astronautes, à ce moment-là, ils pourront forer, récupérer le matériel en petite quantité dans un premier temps et pourquoi pas ensuite récupérer tout ce qui nous manque pour nous. On retrouve le même schéma en matière des astéroïdes. En effet, la NASA a mis en place un projet fou. Au niveau des astéroïdes, vous en avez plusieurs. Les petits astéroïdes, on ne craint pas grand-chose. Et pourtant, il s'est passé un événement grave en 2016. Est-ce que quelqu'un peut-il me le révéler ? Qu'est-ce qui s'est passé comme événement grave en 2016 ? Un événement en 2013, un événement en 2016. Je vous écoute.
2013, on a reçu un petit caillou sur le... qui est arrivé à l'Afrique, il est tombé...
Alors, il y a eu effectivement des débris qui sont tombés précisément en Russie, avec un millier de blessés.
Et la même année, il est arrivé un gros comme un autobus en Afrique.
Oui, et le pire, pour la première fois de manière officielle, en Inde, en 2016, semble-t-il le premier mort à cause du météorite. Le premier mort. Or, le risque de collision de météorites ou d'astéroïdes en quelque sorte, qui gravitent autour de la Terre pour des accidents ou autre chose, n'est pas négligeable. Quand vous avez un astéroïde qui a une petite surface, il se désintègre, il n'y a pas de problème. Mais si l'astéroïde a une surface d'au moins 2 km, ce qui correspond à 0,0001% de risque, mais si par malheur un astéroïde et les chances, entre guillemets, de collision dans les 100 ans qui viennent ne sont pas nulles, dixit les responsables des agences spatiales. Si un astéroïde de diamètre d'au moins 2 km, ce qu'on appelle les géocroiseurs, arrive à rentrer dans l'atmosphère, c'est l'extinction des espèces vivantes sur Terre. Un astéroïde. Et si c'est un astéroïde qui a au moins une surface d'au moins 140 mètres, c'est la disparition d'une ville comme New York, où il n'y a plus de traces de vie du tout. Vous vous rendez compte ? 140 mètres ou 2 km, c'est quoi 2 km ? Et vous en avez plusieurs. Du coup, première urgence, il faut identifier, non pas les petits astéroïdes, aucun intérêt de perdre son temps, mais il faut essayer d'identifier ces fameux géocroiseurs qui gravitent autour et qui peuvent, à un moment donné, rentrer en collision avec nous. Identifier, notamment les gros, 140 mètres, voire 2 km. Et après, que peut-on faire ? Premier point, est-ce qu'on peut les détruire ? C'est difficile. In extremis, si vraiment il y a une catastrophe possible, on peut l'anticiper par rapport aux trajectoires. Ce qui est envisagé, c'est de faire sauter une bombe atomique à proximité pour dévier précisément l'astéroïde et éviter la collision.
Comment ?
Oui, le problème, c'est qu'il est à la retraite maintenant, Bruce Willis. Encore il y a 30 ans, que moi, j'imagine Bruce Willis perdre le rhumatisme en train de faire ça. Moi, je ne le fais pas. Moi, je me fais un gel, quand même. Donc, bombe atomique, mais c'est pas évident pour que le souffle puisse dévier. Deuxième élément qui peut poser problème, c'est, et c'est la NASA qui réfléchit, pourquoi ne pas prélever des roches sur les astéroïdes à la surface, voire récupérer un astéroïde et le ramener à Terre. C'est pas possible. Il va se désintégrer là-dessus. À moins qu'on le ramène en orbite basse, style ISS, qui va pouvoir travailler dessus. Donc le but, c'est de récupérer les roches. Je rappelle que dans les astéroïdes, il y a de tout. Il peut y avoir du fer, de l'or, du nickel.
Des diamants.
Peut-être, on verra. Il y a plein de choses fabuleuses. Il y a plein de choses intéressantes. Autrement dit, ce sont de véritables gisements qui font saliver les grandes sociétés qui se disent, mais à la limite, le nouvel Eldorado, c'est pas sur Terre. Ce sont les astéroïdes. Il y en a plusieurs. Si on peut récupérer tout cela, il faut d'abord cérébralement trouver le moyen. Deuxième élément, il faut pouvoir essayer de les extraire. Et comment ? Donc, on peut les extraire vers une station habitée, quitte ensuite, après, à ce qu'on les récupère en petits morceaux. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité industrielle de les traiter, de choisir. Mais l'idée est clairement de pouvoir travailler sur des éléments de minerais, à tel point que nous sommes en mesure, en exclusivité mondiale, de vous révéler que les Américains ont déjà produit une loi qui permet à des citoyens américains de pouvoir être propriétaires ou de pouvoir, user de forage, entre guillemets, spatiaux. C'est possible. Et à terme, dans les prochaines années, des nationalités ou des différents individus pourront se voir accorder le droit de procéder à cette utilisation, au départ microscopique, et au fur et à mesure que les décennies vont passer, de pouvoir, industrialiser ces forages pour obtenir tous ces précieux minerais. Un peu comme l'Eldorado.
Oui. C'est pour les Américains, les Indiens, tout ça.
C'est vrai, si Chinois sont pas d'accord.
Tout à fait. Alors le problème, c'est que justement, vous avez parfaitement raison. À l'heure actuelle, de plus en plus, nous avons des connexions entre l'Agence spatiale européenne et les États-Unis. Par contre, les Chinois ont décidé de ne plus attendre les Américains. Et de leur côté, ils ont décidé eux-mêmes de s'intéresser puissamment à cette idée de colonisation. D'où le réveil de vieil antagonisme sino-américain, qui est de dire, avant nous avons gagné contre les soviétiques, on se repose. Attention, si on dort trop, les Chinois vont l'emporter contre nous. C'est peut-être un moteur. Donc vous avez la Chine des côtés, qui pense qu'à elle, les Américains en solo ou avec l'Agence spatiale européenne, et en annexe, en outsider, les Sud-Coréens, voire les Japonais.
Ça doit quand même être une entente au niveau des Nations Unies.
Vous avez parfaitement raison.
Moi, j'arrive le premier, je prends.
Tout à fait. Moi, parfaitement, honnêtement, si j'avais le choix, je ne conçois pas la conquête spatiale sans une, on va dire, une sorte de gouvernement mondial. Je veux dire, voilà, on met en commun nos ressources. Les Chinois, ça, vous êtes plus en avance. On fait confiance au matériel chinois. Les Américains, expérience, et on met cela en commun. Hélas, d'après les informations dont je dispose, ce n'est pas le chemin qui sera pris. Une petite parenthèse, c'est le côté, après je donne la parole, juste une petite parenthèse personnelle. À l'heure actuelle, ce n'est pas aussi clair, mais je pense que Gilbert ne me démentira pas, tous les experts sont d'accord pour dire qu'il y a à l'heure actuelle deux zones de risque mondiales, indépendamment de l'espace, pour expliquer pourquoi il n'y a pas d'entente entre les différentes nations. D'abord, il y a la Corée du Nord, c'est vrai, mais on met ça de côté. La plus grande menace, ce sont les îles Spratly, avec la Chine, qui revendiquent des îles. Donc nous avons de plus en plus, et les experts disent eux-mêmes, il n'est plus impossible qu'il y ait un conflit de nature planétaire ou à grande échelle entre les Chinois qui poussent, et je rappelle que c'est grave, puisque les Américains arrivent à côté pour dire ce sont des internationales, les Chinois, à tout moment ça peut déraper. Donc nous avons des risques certains, non pas en termes de décennies au pluriel, ça peut se jouer sur 5, 10, 15, 20 ans, pas plus. On peut avoir un dérapage incontrôlé entre la Chine et les États-Unis. Ça se passe au niveau du Pacifique, avec les pays côtiers en arbitre. Et là, ça peut faire très mal. Dans ces conditions, comment concevoir que la conquête spatiale puisse se faire en harmonie alors que la méfiance est de règle, notamment entre la Chine et les Américains? Je ne parle pas des Russes là-dessus. Mais vous avez mille fois raison, si on avait un peu de bon sens, c'est ce que j'explique à mes stagiaires, un peu de bon sens. Unissons nos forces. Si on veut véritablement un jour développer la vie à l'extérieur, unissons nos forces pour pouvoir mieux coloniser. Oui.
Oui, mais dans ce cas, on lève la compétition entre les pays qui a été le principal moteur de la.
Tout à fait. Mais maintenant, on arrive à un bout. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudra un élément de rupture. C'est-à-dire que jusqu'à présent, si on veut coloniser l'espace, nous sommes donc à la genèse. Qu'est-ce qui reste? Bon, on avait vu les astéroïdes, qui est un gisement qui va se faire, on va commencer à les domestiquer dans les années à venir. Hein. C'est en gros 2020-2024, le début, et après on verra sur 2030. Donc c'est dans les 10 ans qui viennent, hein. Un début. Ensuite, il y a effectivement un autre problème qui va se poser, c'est qu'en matière des lanceurs, ils sont gentils les lanceurs, ben, c'est par rapport à des ergols, etc., mais à un moment donné, on touche à des limites. Si on veut passer des mois et des mois dans des voyages interstellaires, qu'est-ce qu'ils vont devenir, les astronautes? Laissez les astronautes sur la Lune, en 69, ils savent que, allez, ils ne sont pas trop loin. C'est la banlieue de la Terre. Vous voyez la Terre devant vous, ben, si vraiment vous avez une nostalgie, vous regardez la Terre lumière. Mais quand vous êtes sur Mars, où les personnes vont cohabiter entre eux, alors évidemment, on vous dit, on a entraîné les astronautes dans le désert du Nevada, ils sont entraînés très bien entre eux, ils s'entendent à merveille. Évidemment, ils sont sur Terre. C'est trop facile. Moi, je suis sur Terre, je gère bien le stress, je suis avec les personnes que je connais, nos problèmes. Gérez-moi ça quand vous êtes sur Mars, après des voyages qui vont durer des mois et des mois. Il faut après voir les orbites, en plus, pour le retour. Aller, retour. On est sur des questions de 2 années. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Or, s'ils ne sont pas capables de relever le gant de la conquête sur Mars, ce n'est même pas la peine d'envisager le reste de la conquête spatiale, non seulement au sein de notre galaxie, mais surtout à terme, si on veut, dans un futur beaucoup plus lointain, aller vers les exoplanètes. Ça nous manque. Mais pour le moment, la galaxie, elle est là. Donc, il faut essayer de vérifier si on est capable. Alors, l'objectif, c'est simple. ou bien on est sur orbite basse, une sorte de base arrière, d'où, à partir duquel, les astronautes pourront partir, conquérir et explorer les Terres. Mars, en l'occurrence, mais pas seulement. Il y a une lune intéressante, Titan. Titan, c'est assez intéressant. Titan est prometteur. On pense qu'il y a des choses très intéressantes. Titan et Europe. Donc les lunes de, effectivement, de Jupiter et de Saturne. Elles sont intéressantes. Alors, il y a plusieurs choses. C'est bien beau de pouvoir les coloniser. D'abord, l'homme ne peut pas y aller. Et surtout, on va essayer d'imaginer. Ah, c'est, ils ont fort, la NASA. Ils ont mis en place, si on veut par exemple sur Europe essayer d'y aller, c'est très difficile. Les sondes peuvent explorer. Vous avez la sonde Cassini qui avait fait des explorations dans l'espace. Mais bon, l'objectif maintenant il est très simple. Il faut recourir à quelque chose de novateur. Quoi ? Ils ont imaginé l'usage du montgolfière. Du montgolfière spatial. Qui va permettre à l'espace de vérifier un petit peu tout ça grâce à des miroirs qu'ils vont pouvoir développer. Il ne faut pas mettre trop de miroirs pour ne pas alourdir le système. Donc c'est tout un équilibre où tout se met en place dans l'espace et qui va pouvoir effectivement, entre guillemets, cartographier précisément ces deux lunes si intéressantes pour l'esprit humain. Mais ce n'est pas tout. Il y a également, on a, notamment je crois que c'est sur Europe, si ma mémoire est bonne, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, il y a beaucoup de méthane. Beaucoup de méthane, donc il y a, on pense qu'il peut y avoir soit des océans en dessous, mais ça ruisselle de méthane.
Où c'est qu'il y a eu des vaches ?
Comment ?
Où c'est qu'il y a eu des vaches ?
Voilà. Alors le problème, comment explorer ces fabuleux océans ? Eh bien, nous avons la solution. La mise en place, chapeau pour la NASA, d'un mini sous-marin. Un sub. Ce sous-marin.
Un méthane.
Comment ?
Un sous-méthane.
Avec des parois en titane qui va pouvoir explorer les fonds sous-marins. Et récupérer effectivement le spectromètre de masse, plein de choses, etc., qui vont permettre.
Il y a une couche à traverser, non ?
Oui, mais justement, la montgolfière, dans un premier temps, on va regarder. Et si c'est jouable, le sous-marin pourrait être introduit. C'est un petit sous-marin et qui va récupérer tout ce qui nous intéresse, analyse, etc. Donc, l'objectif, c'est de se tirer le pari. On n'en sait rien. On pense que la couche, elle pourrait traverser. C'est le pari de base. Et si le sous-marin arrive en dessous, à ce moment-là, effectivement, on fait des progrès fantastiques là-dessus. Donc, Titan, Europe, c'est 2030-2040, hein, voire 2050. C'est demain. C'est demain. D'accord. Qu'est-ce que c'est 30 ans ? J'ai vu les 30 dernières années qui sont passées, je n'ai même pas remarqué. Oh. 30 ans, c'est rien. Et plus on monte dans la vie.
Attention, les 30
prochaines. C'est parce que plus on monte en âge, plus je vois la vie galoper. Et les premières années, je ne voyais pas passer. C'était du ramé. Encore cette année-là, plus de 30 ans, mais c'est pas possible. Donc, les 30 prochaines années seront décisives. Pour la première fois, on change de dimension dans l'exploration. Il y a encore autre chose. Il y a maintenant les exoplanètes. Alors le problème, c'est que au niveau du télescope, c'est bien gentil, mais on touche lentement à nos limites. On touche à nos limites. Parce qu'au niveau de la Terre, on a réussi à deviner par des variations, etc., qu'il y a des telles exoplanètes. On en a trouvé, vous imaginez un petit peu l'accélération. Entre les années 90-95 et maintenant, il y a une accélération. 300, 500, 1000, 3000 par différence. Mais aucun télescope sur Terre n'est capable d'aller plus loin. Sauf si on imagine de monter un gigantesque télescope dans l'espace qui va permettre, enfin, grâce à des pixels de couleurs, rouge, jaune, bleu, vert, de pouvoir identifier les caractéristiques sommaire de chacune des exoplanètes qu'il aura été capable d'identifier. Grâce à ces super, qui sont en train d'être conçus, hein, il y en a deux qui sont en train d'être conçus, et un en état de projet. Donc on est quand même sur une question de décennies. Hein, décennies, on va dire 2020-2030.
Il va y avoir prochainement un télescope géant sur Terre.
Tout à fait. Mais même avec ça, on va faire des progrès, mais on touche à nos limites. En clair, les marges de manœuvre sont intéressantes. Mais
on pense commencer déjà des choses.
Oui, mais maintenant, le but, c'est d'aller encore plus loin. Oui. Ça, c'est passionnant. Il faut le faire. On n'a pas le choix. On va le faire. Mais si on veut, n'oubliez pas qu'il y a quand même un risque. Quand on dit la conquête spatiale, c'est pas une vue de l'esprit. Si demain il y a une catastrophe sur Terre, si on n'est pas capable de migrer vers une planète, quelle qu'elle soit, pour survivre, c'est toute l'extinction de l'espèce humaine qui est en cause. On a les moyens de le faire. Encore faut-il avoir l'intelligence d'être uni, etc. Mais le temps presse. Quand j'ai le temps presse, on est en décennie. En clair, il faudrait que sur les 50-80 ans qui viennent, nous soyons capables, américains, etc., occidentaux, chinois et autres, de pouvoir aller de l'avant, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Catastrophe nucléaire, un problème de météorite, d'astéroïde, une épidémie, tout est possible. Un changement de météo, on l'a déjà connu. Alors, à ce moment-là, maintenant le temps presse. Et les Américains et les Chinois l'ont enfin compris, en dehors des problématiques que je venais de soulever. Donc, découvrir les exoplanètes. Y a-t-il, oui ou non, la grande question que l'humanité se pose ? Sommes-nous vraiment seuls dans l'humanité et dans l'espace ? Pour le moment, vous imaginez, il y a toutes les galaxies. Et à notre niveau, on a trouvé par exemple des possibilités d'eau, d'océan, etc., où la vie même primitive a pu éclore. Mais le problème, c'est que ça a pu éclore à un moment donné. Après, les terres sont ou glaciales, ou chauffées à blanc, la vie n'est plus là. Est-ce que c'est vraiment l'accident, la vie sur Terre ? Est-ce que nous sommes finalement seuls dans tout l'univers ? Et donc, il y a la fabuleuse Terre bleue. Ou alors, il y a d'autres signes de vie, plus primitifs, plus évolués, ailleurs. Et si on veut, à un moment donné, pousser le contact, il faudra bien développer des nouveaux matériels ultra perfectionnés dans l'espace, qui vont permettre de développer leur miroir, avec la question quantité, il ne faut pas que ce soit trop lourd, donc minimiser au maximum, pour pouvoir obtenir la direction souhaitée. C'est le projet des 10-15 prochaines années. Donc tout ce que je dis là, c'est tout ce qui est déjà en germe sur la période 2017, dès cette année, 2020, 2024, 2030, 2040 pour le sous-marin, et un petit peu avant pour la montgolfière. C'est déjà prêt. Il reste à trouver la solution du lanceur. Là, c'est le problème. Est-ce qu'on peut trouver des lanceurs ioniques ou avec d'autres sources d'énergie ? Là, on n'a pas encore trouvé. Voilà pourquoi, pour la première fois, dans les plans secrets des différents états-majors, il y a enfin le fait de dire que si on veut progresser de manière décisive par rapport au XXe siècle si ancien, même si nous sommes nés au XXe siècle, pour certains d'entre nous, c'est fini, c'est has-been. Ça me rappelle le stagiaire qui me disait « Avant 2010, c'est la préhistoire. » Là, j'ai pris un coup de vieux. Eh bien, dans ce cas de figure, l'objectif, c'est de trouver une énergie de rupture. La trouvera-t-on ? On ne sait pas. Mais c'est dans l'air du temps.
Le saut technologique, ce serait l'ascenseur spatial.
Absolument. Mais on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. Dans certains cas, je sais que pour certains projets de la NASA, ils ont fait le calcul. S'ils sont malins entre le carburant, enfin, le côté ionique, où il y a un autre également terme qui s'appelle, quelque chose que je connais, mais ça va un peu me revenir, quelque chose, ça va revenir. On peut faire 39 jours pour faire Terre-Mars. 39 jours. Vous voyez un peu le... Là, je cherche le terme. C'est pas ionique, c'est l'autre. C'est un terme composé. Merci. Oui, il y a un mot juste avant. Plasma, plasma quelque chose. Ça va revenir. 39 jours. 39 jours, c'est juridiquement, enfin juridiquement, techniquement possible, si tous les éléments de l'assemblage sont opérationnels, 39 jours dans les plans horizon 2050, si on arrive à trouver, donc c'est plasma quelque chose. Bon, je trouverai, je vais. Et là, ce serait une révolution fantastique. Alors, il y a une part des projets qui ne sont pas encore nés et qui vont pourtant éclore dans les décennies à venir. Ça, je ne les connais pas. Et il reste l'élément du tourisme spatial. Tourisme spatial, ça se développe. Alors, jusqu'à présent, les petits milliardaires, on le voit. C'est plasma quelque chose. C'est. Bon, je le retrouverai. C'est plasma quelque chose. Je vais terminer, mais c'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir. Ça me pollue.
Je suis Sherlock, c'était le Cosmo.
Enfin, en tout cas, il y a une possibilité théorique. Après, il y a tellement de difficultés, notamment en termes de poids, de quantité. Vous savez que quand vous voulez extraire quelque chose sur Terre, il faut quand même 10 000 euros pour extraire 1 kg de la poussée terrestre. 1 kg. C'est la folie, c'est une somme phénoménale. Oui.
Vasimir, plasma NG.
Oui, mais c'est un autre stade que j'avais vu.
On a 39 jours.
Voilà.
Donc
vous avez en exclusivité mondiale ce que personne ne savait et qui vous est révélé en live. Mais c'est, tu as un autre terme en tête, ça, tant pis. Bon, je fais confiance. J'avais un autre terme, un nom composé. Mais c'est bien, oui, 39 jours, vous imaginez ? presque bientôt faire Marseille-Paris. On fera, tiens, mais j'ai envie de passer sur Mars. Après, qu'est-ce qu'on va trouver sur Mars? Il faut quand même tenir. Hein.
Okay. Oui. Variable spécifique, une plus magnétoplasma.
Voilà, magnétoplasma. Merci. Magnétoplasma. Et ça, c'est dans les tuyaux. On ne va pas dire dans les tuyères. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes. Maintenant, le tourisme. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un film récemment qui évoquait un petit peu le début de la pesanteur, qui est un film un peu comique, un plan parfait, où on montrait effectivement que Danny Boone essayait avec Dan Keaton de lui faire ressentir des émotions. Mais, à part quelques milliardaires qui font aller 20 secondes d'apesanteur, ça n'a rien à dire. L'objectif, c'est de pouvoir essayer de les amarrer, de faire que l'ISS, ou un équivalent, puisse récupérer des touristes. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a 2, 3, 4. Vous savez, on n'a pas beaucoup de place. Hein. Alors l'idée maintenant, c'est de mettre en place une sorte de gigantesque tente spatiale, où les personnes touristes pourraient être une dizaine, une quinzaine, et ben, se lever, on va vers la Terre. Bon, honnêtement, moi je vais bien le faire sur un jour, mais après sur une quinzaine de jours, je vais trouver le temps un peu long. Hein. Et donc vous pouvez voir la Terre, vous pouvez voir plein de choses, etc. Le tourisme spatial est déjà mis en place par des sponsors américains qui ont financé des fusées locales pour pouvoir y arriver. Et du coup, là c'est l'arrivée de quelque chose de nouveau. Sauf que on est sur quelque chose de très timide. 10, 15, dans la tente, on ne peut pas trop se serrer non plus. Et tout ça avec des matériaux composites, avec du Kevlar, etc. Donc, les projets vont se mettre en œuvre dès maintenant, dans les prochaines années. Que les prochaines années, ce n'est pas lointain. C'est tourisme spatial, c'est 2020. C'est maintenant. Nous, on va paraître un petit peu has-been. On est encore sur le terreau des vaches. Et quand après, nous allons dire comment vous n'êtes pas allé voir sur Mars, voyager, etc. Mais c'est pas possible. On a une révolution cérébrale complète. Mais il ne faut pas la détruire, cette révolution, parce qu'il en va de l'avenir de notre espèce. Et la Terre, nous savons tous à long terme qu'elle est mortelle, elle dépend du soleil, de plein de choses, etc. Il faut donc véritablement, ce n'est plus un caprice, tant par la recherche des minerais, tant par l'exploration spatiale, tant par la connaissance de notre passé, grâce à l'intervention et à l'analyse des minéraux, d'où venons-nous ? D'où venons-nous ? Les astéroïdes qui sont un petit peu des briques assemblées peuvent nous renseigner sur, je veux dire, la genèse, entre guillemets, du Big Bang, pour schématiser au maximum. Et donc, on va à tout prix connaître ce schéma, même si nous savons très bien qu'on ne pourra jamais complètement maîtriser le schéma du Big Bang. Il y aura toujours un petit détail qui va nous manquer. Mais c'est cette connaissance qui est le propre de l'humanité. Pour le moment, l'espèce humaine n'a toujours pas réussi à coloniser la Lune. Alors c'est notre fantasme. Science-fiction, rappelez-vous, 2000 ans l'étude de l'espace, etc. On n'a pas réussi à la coloniser. Donc, on a réussi à envoyer des sondes, on a réussi un petit peu à faire des explorations, on a fait de gros progrès. Mais coloniser, je veux dire, l'astre le plus proche, on n'est pas encore capable au jour d'aujourd'hui.
Ah, mais tu n'es pas motivé jusque-là.
Ouais.
Si on est motivé pour faire la.
Ce qui veut dire que quand on est motivé, on peut arriver à faire quelque chose. Ceci étant, il y a quand même des problèmes, je veux dire, techniques, qui sont lourds. Le problème, c'est si on n'avait pas imaginé l'histoire de l'imprimante 3D, qui peut résoudre des problèmes, on en serait actuellement en même difficulté. On arrive à un mur. C'est-à-dire qu'il faut une véritable révolution. En 1492, c'était la caravelle. La caravelle. Sans la caravelle, ben, honnêtement, ils seraient tous morts de scorbut et ils ne seraient pas arrivés à bon port. Grâce à la caravelle, ils ont trouvé l'outil merveilleux qui a permis d'explorer de nouvelles terres. Eh bien, c'est la même chose ici. Est-ce que l'esprit humain est capable, à l'ère des ordinateurs bientôt quantiques ou autre chose, de pouvoir imaginer des nouveaux schémas totalement révolutionnaires qui puissent nous permettre, ascenseur spatial, fusion nucléaire pour d'autres éléments, etc., de pouvoir aller vers l'avant. Toute la question est là. Donc nous avons vu la Lune, nous avons vu effectivement des astéroïdes, nous avons vu Europe, Titan. Qu'est-ce qu'on a pu oublier? Je crois que c'est à peu près tout ce qu'ils ont dans les plans entre 2017 et 2040-2050. Les verra-t-on? Je pense qu'on verra au moins une partie. Et peut-être qu'il y a des plans nouveaux qu'on ne verra même pas et qui vont changer la donne. Mais en tout cas, le 21e siècle, si l'espèce humaine n'est pas assez folle pour tout détruire, promet d'être le siècle véritable de la conquête spatiale.
Où on trouve le moyen avant d'avoir fini de piller la Terre.
Voilà.
Oui, oui, mais le problème, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un changement de mentalité. Ah. Et pour le moment, on ne l'a pas encore.
question que je vous pose aussi, c'est économie commun, comment financer de tels projets. J'imagine, je crois que j'ai eu le projet, le télescope James Webb, là. Ce qui peut coûter, c'est ça paraît fou, quoi. Enfin,
ça change la vie. J'ai plusieurs années de retard.
Oui.
Qui sera mis sur orbite avec un peu de chance, peut-être bien l'an prochain. S'il n'y a pas encore d'autres retards, on a oublié une chose, c'est que le pouvoir a changé aux États-Unis, que une chance, Trump vient de confirmer le crédit de la NASA, il a baissé que de 1%.
C'est vrai.
Mais on sait très bien que l'an prochain, ce ne sera pas de 1%, mais ça sera de beaucoup plus.
Je confirme.
Parce que Trump, ce n'est pas son problème. Non. Et que de toute façon, on est sur un problème philosophique fondamental. Est-ce que le problème, c'est d'aller voir ce qu'il y a là-bas ou d'essayer de se préserver ce qu'on a là? Parce qu'actuellement, on est en train de creuser notre terre.
Absolument.
Et en creusant notre terre, on est en train de creuser notre tombe.
Tout à fait.
Alors, bon, essayons de résoudre ce problème philosophique. Et quand j'entends tout ça, ça me fait rêver. Mais ça me rappelle ce que je lisais quand j'étais petit. J'avais 12, 15 ans, les revues de prospective de l'époque. Le Monde, en 1975, dans les années 50, excuse, j'ai un peu vieilli. Dans les années 50, Le Monde, en 1975, l'horizon à 20-25 ans.
Fait.
Et on voyait des engins qui
tout faux,
tous
tout
les
faux.
Côtés. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a toujours des déplacements dans des véhicules à énergie fossile, et les 75, il y a 40 ans déjà derrière, de plus, mais on se déplace toujours dans des véhicules qui sont propulsés avec des énergies fossiles. Et la seule chose que l'on n'a pas vue dans la prospective, c'est que la véritable révolution était celle de la communication.
Absolument.
Et pas celle des transports, alors qu'on voyait que celle des
alors,
transports. Et là, on est en train de retomber dans
ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est passionnant. Sauf que, dans les projets que j'indique, les projets, pour certains d'entre eux, seront déjà opérationnels en 2017. Cette année. C'est-à-dire que, en réalité, j'ai pris, vous avez raison, parce que moi j'ai vu ça même sur Paris Match, Le Monde en l'an 2000, Le Monde en 75, etc. Tout faux, tout faux.
Absolument.
Alors, ceci étant, je mets deux bémols. Là, il faisait des prévisions à 20 ans sans aucune base, en disant voilà, il y a des projets, on ne sait pas ce qui va se passer. Ici, on a des projets concrets, sud-coréens, japonais, américains et chinois. Le projet de Chang, chinois, est déjà opérationnel. 2017, 2018, 2020, c'est pas du long terme, c'est maintenant.
C'est aller sur la Lune.
Jusqu'à 2020.
Il y a le projet de NASA de ramener un astéroïde sur Terre ou à proximité de la Terre, qui est un projet très proche.
Oui, mais un projet non, plus fou, attention, parce que les experts disent au niveau de l'astéroïde, mais ça sera, à mon avis, sur du long terme. On ne pense pas qu'on puisse prendre un astéroïde. On peut prendre peut-être une roche, et même là, on n'est pas d'accord parce que ça peut être friable. Par contre, jusqu'en 2020, 2024, ça va se passer exactement comme ça.
Chacun sait. Le but des experts, c'est quand même de se tromper régulièrement, qu'on a le problème fondamental que soulevait, qui est celui de la pompe à finance, parce qu'on est dans un monde fini où on ne pourra pas trouver des choses au-delà du volume de la sphère pour avoir suffisamment d'énergie pour aller là-haut. Que le rendement étant toujours inférieur à 1, si on va avoir un petit chouïa de là-bas, il faudra dépenser 1 milliard de fois plus d'énergie.
Alors là où je vous rejoins, là vous verrez, on est en 2017, sur d'ici 7 ans, il y aura des trucs très intéressants qui découlent directement de ce qu'on vient de voir. Parce que les projets sont tellement bien aboutis, on investit 1 milliard, il peut y avoir un projet qui va capoter, mais l'esprit, la Chine veut être sur la Lune. Elle le sera.
Oui,
donc ces projets, c'est des projets qui sont déjà façonnés. Là où je vous rejoins, et je vais même plus loin que vous, c'est sur l'espèce humaine. Et effectivement, vous avez dit le mot clé, c'est une question philosophique. Je me posais la question, l'espèce humaine c'est quoi? Au départ, on nous a dit, espèce humaine, c'est la quintessence de la nature, etc. Je vais faire preuve de cynisme. L'espèce humaine, entre guillemets, pour parler comme Philippe Hulot, on a salopé beaucoup de choses. Finalement, on est arrivé, espèce humaine, on avait une sorte de paradis sur Terre, parce que moi je considère que le paradis, le vrai paradis sur Terre, c'est une Terre fabuleuse, je veux dire, c'est un, vous avez des vues magnifiques, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On en a fait, je pense à la chanson de Zazie, une Terre glacée, une Terre brûlée, on l'a usé jusqu'à la moelle, sans aucune autre idée pour une bonne partie d'entre nous que la soif de l'argent, la soif de la paix, etc. Je veux dire, l'espèce humaine, la quintessence de la nature, et nous avons été plus bêtes que les autres animaux ou autre chose qui, eux, ont vécu sur la Terre en tant que telle. Qu'est-ce que nous avons apporté? Est-ce qu'il n'est pas possible, et ça c'est le vrai problème philosophique, l'espèce humaine, j'en suis un peu revenu, on s'est trucidé, alors que nous sommes, entre guillemets, je veux dire, les mêmes, quelles que soient les couleurs, les races, les religions, etc., on s'est trucidé pendant des milliers d'années. Pourquoi? Et ce qui montre comment?
Et on continue.
Pour montrer la bêtise humaine, on se trucide pour un territoire. Ça sert à quoi? Si demain il y a un gouvernement mondial, si demain toute la Terre est gouvernée par un gouvernement mondial, il y aura, je veux dire n'importe quoi, le Macron chinois, le Edouard Philippe italien, que sais-je encore. Et nous n'avons pas cette intelligence de dire, à un moment donné, on est peut-être, et là je voudrais vraiment travailler sur une belle chanson de Alain Souchon qui disait, et si le ciel était vide, si nous sommes seuls dans la galaxie, préservons à tout prix ce que nous avons de plus précieux. Ça, c'est très important. Et à la limite, déjà de dire, unissons-nous, tirons les leçons. Alors, on a commencé à le faire timidement sur le côté européen, puisque je rappelle que l'Europe, c'est la paix. Et c'est pour ça que les pères fondateurs de l'Europe, Robert Schuman, Adenauer, De Gasperi, ont dit, on va mettre en place l'Europe. Et on a depuis 70 ans, sur l'équivalent de l'Union européenne, je schématise, la période de paix la plus longue que l'histoire ait jamais connue. Jamais connue. Ce qui est une parenthèse unique depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. Tous les continents ont été à feu à sang. Tous. La guerre en Amérique centrale, Guatemala, Honduras, Nicaragua, j'en passe les meilleurs. L'Afrique, n'en parlons pas. L'Asie, n'en parlons pas. Il n'y a pas un continent qui a été pratiquement préservé à part l'Océanie encore. Eh bien, ici, essayons enfin de faire preuve d'intelligence. Et je pense que la philosophie, l'histoire, et le fait de dire que nous sommes peut-être, entre guillemets, l'accident de la nature, ça devrait, théoriquement, si on est rationnel, mais l'homme est-il rationnel, je pose la question, nous dire, faisons attention à ce que nous avons. C'est tellement provisoire, tellement précaire. Là, je vous rejoins. Effectivement, c'est à nous de dire, faisons attention déjà sur Terre. Mais quoi qu'il arrive, on n'arrêtera pas l'esprit de curiosité de l'être humain, qui sera toujours d'aller à la nouvelle frontière, chère à Kennedy, aller toujours plus loin, quel qu'en soit le coût. Et je suis certain que l'être humain est tellement ingénieux qu'il trouvera les ressources financières, quelles qu'elles soient, pour aller toujours de l'avant. Vous savez, quand à un moment donné, les Américains ont dû travailler sur le projet Manhattan, qui coûtait une fortune, ils ont trouvé les moyens de le faire dans un temps record. Parce qu'il y avait une urgence, il y avait une motivation, comme vous disiez tout à l'heure.
On pense au problème philosophique.
Tout à fait.
À quoi servit le projet Manhattan? On ne peut pas dire que ce soit un progrès scientifique à travers ça.
Par contre,
excuse-moi, il y a un certain nombre de choses ensuite. On s'est dit, bon, il y a des centrales nucléaires, en fait. Mais au départ, c'est quand même un projet profondément morbide.
Oui, mais au départ, si les Allemands avaient eu le projet Manhattan, et certaines voix disent, après il faut vérifier.
On sait que les Allemands, de toute façon, n'étaient pas prêts à avoir la bombe atomique.
C'est vrai. Mais maintenant, le
c'était un échec scientifique chez eux.
C'est pas évident. Et j'ai vu un livre scientifique.
Heisenberg l'a confirmé après la guerre.
Mais j'ai vu un livre scientifique, justement, qui est produit récemment en 2014, que j'ai pas lu, j'ai vu que la critique. Et le livre, dans Sens et Vie, notamment, qui l'évoque, Guerre et Histoire, qui est une très bonne revue, et qui explique qu'il y a eu quelque chose qui a été fait en Allemagne, je n'ai pas le livre, donc je ne peux pas dire, 44-45. Mais au départ, les Américains ont eu vraiment peur que l'Allemagne ait la bombe atomique. Imaginez un instant, Hitler a la bombe atomique. On parlait tout seulement. Vous imaginez un petit peu le cochon. Projet Manhattan, c'est la bombe atomique américaine mise en place par les Roosevelt, avec la réunion de tous les cerveaux américains et étrangers, notamment italiens, hongrois, etc., etc., pour essayer de mettre en place l'arme absolue avant que Hitler puisse, lui, détenir la bombe atomique. Car la grande peur des Américains, c'est de dire, si Hitler a la bombe atomique, c'est fini. Il y a une coupure complète. Là, on est vraiment, comme dirait Philippe, effectivement, là, sur ce point, je vous rejoins, c'est les forces du mal contre les forces du bien. Là, c'était chaud. Et ça aurait pu mal tourner. Ça s'est joué à peu de choses près en 40 avec les Anglais ou autre chose. Mais c'est vrai que, est-ce que c'est un progrès ou pas? Chaque chose est à la fois positive et négative. Non, la sûr. Science, elle est neutre. C'est l'utilisation que nous en faisons qui montre que, finalement, ça peut sauver des gens pour le cancer. Combien de gens ont eu la vie sauve grâce, effectivement, à une maîtrise acceptée de nucléaire ou autre chose, de la radioactivité? Et ça peut faire la pire des choses. C'est vrai que l'être humain, il est champion pour aller toujours dans le mauvais côté. C'est vrai. Maintenant, c'est l'informatique. Moi, je ne concevrais pas la vie sans l'informatique. Et pourtant, l'informatique, ça peut pister les gens. George Orwell, 1984, etc. Imaginez Hitler avec l'informatique. C'est la folie. Ou Staline, etc. Donc, malgré tout, il faut tenter l'aventure.
J'ai passé ces deux derniers jours.
Oui, avec le site de l'attaque.
On s'aperçoit qu'on est dans un monde drôlement dépendant. On pensait être libre avec l'informatique. Et en fait, on est tous vachement enchaînés.
Tout à fait.
Parce qu'on est jamais dans un coin tout seul derrière son petit bureau. Il bloque 200 000 dans la société.
Oui. Maintenant, c'est chaque chose la même chose. Prenez la voiture, prenez le train. Ma mère me disait toujours, regarde l'avion, c'est un progrès et combien de morts? Peut-être, mais objectivement, l'avion, c'est quand même un moyen plus sûr que, au hasard, d'autres moyens de transport.
Tu as raison, il y a bien toujours à faire.
Alors que, après, le risque que j'évoque, c'est un risque qui me vient à l'esprit, la voiture autopilotée. Là, il y a un risque parce que l'ordinateur va dire à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? J'écrase l'individu ou je provoque la mort du passager. Ouais. Et ce sera l'ordinateur de choisir, c'est plus vous. Là, ça fait peur. Ça fait peur. Fait en il ne prend pas la réalité. Oui.
Moi, j'aimerais un peu revenir sur. J'aime bien les voitures Tesla, tout ça, mais sur la Lune et l'espace. Moi, le sentiment que j'ai regardé récemment l'annonce qui a été faite il y a quoi, quelques semaines par la NASA. C'était sur. Je mets bien entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est pas vraiment une découverte, mais la découverte sur Enceladus, Europe et Titan. De cet hypothétique océan sous la glace. Moi, l'impression que j'ai, c'est que ça a été vachement médiatisé.
Oui.
La preuve, c'est que c'est la première fois que je suis à un live de la NASA, alors qu'avant, je ne l'avais jamais fait. Et c'est que ça m'a atteint, cette information est venue jusqu'à moi. Mais en même temps, moi, le sentiment que j'ai eu en regardant cette vidéo à la fin, c'était que, ah ouais, c'est génial, il y a hypothétiquement un océan, mais on est bien emmerdé pour y aller. Quoi.
Tout à fait. Absolument.
Mais pour moi, c'est vrai que c'est beaucoup de projets. Alors, c'est vrai que le SUB, comme ils disent, ils avaient pensé faire un truc excavateur, c'est compliqué. Alors, ils pensaient la faire chauffer, qui tournait sur la glace et qui descend par gravité dans la glace.
Ça. Enfin,
bon, il y a plein de choses, mais. Moi, finalement, déjà, j'ai l'impression que ça, c'est carrément encore hors de l'attente. Même si on a le matériel, même si on a les subs comme ça, enfin, déjà sur la Lune, on n'est pas capable. J'ai l'impression que c'est plus médiatisé que ce qu'on est capable.
Alors, un élément optimiste. Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, s'il va en avoir un. La conquête spatiale, qui m'a commencé en 1970, puis elle s'est quand même un peu essoufflée, en gros. Il n'y a pas eu, il y a rien eu de révolutionnaire, en gros, à part les sondes qu'on a envoyées, qui ont été des progrès énormes. Mais, je veux dire, il n'y a rien de galvanisant. Et après toutes ces décennies qu'on a fait sur place, j'ai pas mal de cerveaux qui ont réfléchi, etc. Je ne pense pas que ça va se décanter maintenant. Mais je suis intimement persuadé, je prends le temps, que après tout cet âge de No Man's Land, où on s'est un peu endormi, où finalement on a fait du neuf avec du vieux, c'est pas terrible. Mais à partir de 2022, au mois sur 2040, demain, voire dès 2030, vous serez quand même bluffé. Pourquoi? Parce que les personnes ont réfléchi pendant que rien ne se faisait officiellement. C'est comme au niveau de tout ce qui est, bon, c'est sur un autre domaine, moi je m'intéresse beaucoup à l'aéronautique. En gros, on a eu le F-15 et le F-16, des merveilles. Puis après, pas grand chose. Et enfin, avec tous les défauts qu'il y a, je ne rentre pas dans le débat, le F-35. C'est peut-être le dernier avion de sa génération. Mais je veux dire, pendant que des années, on a eu les mêmes appareils, on a une véritable révolution, à tort ou à raison, elle existe sous nos yeux. Et à partir de 2030 et 2040, vous serez bluffés parce que la volonté politique y est au moins au niveau de la Chine, au moins. Et elle sera au niveau américain parce que je crois qu'on est pique au vif, on fait confiance, ils se réveillent, tout le monde est tard, ils se réveillent. Et d'un autre point de vue, vers 2040, vous allez voir le saut qualitatif qui va exister. Ce n'est pas un saut révolutionnaire. Comme toute innovation, on ne part pas de ex nihilo, de zéro à quelque chose. C'est toujours, on évolue et on adapte. Mais je pense qu'on sera bluffé. Je prends les paris publiquement. Pour ceux qui seront là en 2040, pensez à moi. Je maintiens, 2040, dans 23 ans, il y aura quand même des choses intéressantes. Oui. Alors, Sud-Coréens, ils ont leur projet à part. Autrement dit, Sud-Coréens à part, eux, ils veulent effectivement essayer de tourner autour de la Lune avec leurs propres innovations. Mais c'est un peu local. Donc, chacun veut faire ce projet entre 2017 et 2020 sur la Lune. Sud-Coréens, avec, on va dire, peut-être mettre en place des tentes ou du Kevlar ou quelque chose de ce côté-là. Les Japonais, eux, ça sera un petit survol. Et les plus avancés, c'est les Chinois, incontestablement, qui veulent marquer un grand coup. Ça, c'est clair. Ils veulent coloniser la Lune, carrément. Horizon 2026. Ça ne veut pas dire que ce sera en 2026. Mais la Chine, il faut voir les progrès phénoménaux qu'ils ont fait. Je veux dire, les premiers porte-avions, etc. Les Chinois, ils en veulent. Hein. Et d'après les experts économiques, donc on n'est plus dans la science-fiction, aux experts économiques, on s'accorde à dire que à partir de 2030, normalement, la Chine pourrait, je suis prudent, devenir la première puissance économique du globe. La première puissance économique du globe. 2030, c'est demain. Alors, nous avons un pays qui n'est pas démocratique, avec tous les risques. Oui.
Moi, il y a une question que je me pose souvent, c'est la question du temps à l'échelle humaine, en cas de conquête X ou Y. Bon, aller sur Mars, il faut 32 jours avec le
truc de plasma. Hypothétique.
Mais si je prends, par exemple, je ne connais absolument pas du tout, mais je suppose les éventuelles planètes, comment on les appelle, exoplanètes, quoi.
Non, c'est du soir. Exoplanète, on n'y pense même pas.
Voilà, parce qu'à l'échelle humaine, ça
non, non, tellement... soyons clairs. Ah.
Mais du coup, ça veut dire rester dans le système solaire, ça veut dire errer un petit peu autour de la Lune. Alors, même si la Lune, à mon avis, a de l'hélium 3, j'imagine à peu près ce qu'on peut faire avec de l'hélium 3, ça peut être intéressant. Franchement, ça peut... Enfin, il ne faut pas se
dire... Oui, c'est juste ce que vous dites. Ça fait à un moment donné, il faut être clair. Pour le moment... On en est justement à essayer de découvrir et de mieux connaître notre environnement entre guillemets, il faut tricher immédiat. En clair, on a essayé le tour Jupiter, etc., les lunes, etc. On n'ira pas loin. Mais déjà, pour moi, le 21e siècle sera la prise de conscience, de connaissance accrue de notre galaxie. Point. Les exoplanètes, même en rêve, on est à des distances phénoménales. Déjà que les... que nous avons des télescopes spatiaux qui arrivent à mettre un pixel, pour dire ça, c'est une planète, bravo. On n'ira pas plus loin. À mon avis, si on veut aller beaucoup plus loin, il faut raisonner en siècles, voire millénaires. C'est-à-dire que là, pour le moment, c'est comme la Terre même. On a eu 1000 ans pour découvrir la Terre. 1000 ans pour découvrir la Terre. Donc, si déjà en 100 ans, on arrive à découvrir la galaxie, c'est déjà bravo. Par contre, il reviendra, si l'espèce humaine n'est pas assez sotte pour s'autodétruire, en 2200, 2300, 2500, 2600, grâce à des révolutions technologiques, d'aller enfin vers les confins de l'espace. Mais pour le moment, soyons lucides, sur 100 ans, d'ici la fin du siècle, donc ça fait que sur 4-5 générations, ça sera simplement la simple possession de l'espace. Regardez l'accélération du temps. 1000 ans pour la Terre, 100 ans pour notre galaxie. 100 ans, 10 fois moins. Vous vous rendez compte ? Seulement la Terre, tout ce qu'on a fait. Et après, je suis certain, je dis bien certain, mais je n'ai pas le moindre doute que les problèmes de blocage technologique ou autre, si l'espèce humaine est toujours vivante, encore une fois, ça je ne garantis pas, je suis convaincu, si on se réincarne, je suis convaincu que l'espèce humaine finira par aller jusqu'au bout de sa découverte. Quitte à faire comme la reine des singes, à découvrir finalement ses propres limites. Et ceci est un autre débat.
Il reste un gros si.
Oui.
Si elle reste raisonnable et intelligente.
Tout à fait. Je suis d'accord.
Et ça, c'est pas gagné.
Absolument.
Vous avez aujourd'hui, vous c'est avez... la seule chose dont on n'est pas certain.
C'est pour ça que je dis.
In fine, je dirais que, comme on mettait dans les testaments jadis, quand on commençait son testament, comme il n'est pas de chose plus certaine que la mort, point de suspension.
C'est pour ça que je dis, pour moi, plus je monte en âge, et plus je suis déçu de l'espèce humaine en général, dans la mesure où je trouve que, finalement, l'espèce humaine n'était pas si brillante que ça, quelque part. Si, je ne fais pas le cynisme. Et à nous, effectivement, on a notre cerveau reptilien. À nous d'être capables de surmonter notre cerveau reptilien et de pouvoir aller de l'avant. C'est un vrai challenge. En réalité, dans l'espace, on essaie de découvrir des choses, mais en réalité, l'homme ne fait que se chercher soi-même. Je vous remercie. On va commencer. Prenez les mains, prenez les mains,
sont bonnes. La place de Dieu, là, notamment. Jusqu'à depuis tout à l'heure, j'ai parlé.
C'est la grande question. En réalité, il y a quelque chose qui est différent quand j'ai réfléchi à la question. Est-ce que nous sommes vraiment seuls dans l'univers ? Admettons que je sois vrai. C'est terrifiant, vous imaginez un petit peu. Demain, imaginons que vous habitez une ville, vous réveillez, il n'y a personne, vous cherchez, il n'y a personne. Et vous cherchez pendant une décennie, il n'y a personne. C'est terrifiant. Il y a deux côtés terrifiants. Nous sommes seuls à la fin. On a beau chercher avec les millénaires, on a beau regarder les confins, on a beau regarder, il n'y a plus rien. Nous sommes seuls dans la galaxie. On aura mis des millénaires avec des moyens phénoménaux qu'on aurait pu mettre en œuvre pour sauver les gens des maladies ou autres. On va les gaspiller là-dessus. Quoique, avec certaines minerais, on pourrait peut-être faire des découvertes médicales intéressantes. C'est un autre débat. Et on est seul. Ça fait peur.
Ouais, ça conforte l'idée de Dieu.
On continue maintenant. Finalement, nous ne sommes pas seuls, vous avez l'hypothèse. Et il y a autre chose, il y a autre chose. Imaginez le choc civilisationnel, parce que nous sommes capables de supporter, de voir une intelligence qui est supérieure à la nôtre, et le choc, quand les Indiens ont rencontré les Espagnols au Cortés, le choc ça a donné 99% de morts dues aux maladies et compagnie, ils ne sont jamais vraiment remis avec quelque chose. Si on regarde une civilisation, une des civilisations, est-ce qu'on est capable de se montrer ça? C'est comme, vous savez, on vit dans une illusion. Quand quelqu'un vit dans une illusion, c'est rassurant. Je vis dans une illusion que finalement, eh bien, tout se passe bien, je vis dans mon petit cocon, etc. Ça fait du bien. Et d'ailleurs, c'est prouvé. Les personnes, indépendamment des questions religieuses, les personnes qui croient en Dieu ont théoriquement, on va dire, quelque chose de plus apaisé en elles, etc., pour beaucoup de critères. Mais en même temps, c'est le côté sécurité. Celui qui est agnostique ou athée, lui, vit dans l'incertitude. C'est pas évident. Dans les deux cas, l'être humain, c'est un accident de l'histoire, dans le sens où Dieu existe.
Point d'interrogation.
Point d'interrogation. Deuxième élément, Dieu n'existe pas. Ça fait froid, mais ça, dans l'univers, on a tout à fait tout pour être seul. Et on a passé notre temps à se tuer. Qu'est-ce qu'on est crétin, quand même, quelque part. Dans les deux cas, on n'en sortira pas entier. Ça, je dis, l'espèce humaine va vers son destin.
S'il existe, comment peut-il permettre ce qui se passe sur la Terre?
Tout à fait. C'est pas possible. Absolument d'accord.
Alors, c'est du genre de.
Je vais vous raconter une anecdote, vous savez. Regardez la fin de la planète des singes, c'est magnifique. Quand le singe dit laissez-le aller, en parlant de Charlton Heston, ouais. Il va rencontrer effectivement la réponse à sa question.
Il a trouvé ce qu'il cherche.
Il a trouvé, et il qu'est-ce que ces gens-là, ils ont sauté, etc. Effectivement, attention, il y a plusieurs problématiques. Alors, moi j'ai beaucoup travaillé, ça c'est vraiment ce qui se passe. J'ai été passionné par les questions idéologiques, religieuses. Et des textes anciens, parce que je travaille sur le judaïsme, le christianisme, le Coran, le catholicisme, le protestantisme et le bouddhisme. Le problème est différent. Il y a deux notions. Il y a la notion de Dieu et la notion de la religion. Et dans Dieu, il y a un problème. Dieu a pu vivre, il a pu mourir. Qu'est-ce qu'on appelle Dieu? C'est pas évident, on ne sait pas. Est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui a lancé, qui a ensemencé la terre? En disant, tiens, ben voilà, on a ensemencé la terre, et voilà, les êtres humains ont pu naître, un peu comme Terminator, tu rappelles. Et finalement, il n'y a plus rien derrière. Et la créature a surpassé son créateur. Tout est possible. On n'en sait strictement rien. Maintenant, la vraie problématique, et c'est le seul point d'interrogation qui vaille la peine, c'est qu'à un moment donné, c'est la notion de hasard. Tout va se jouer là-dessus. Il y a deux notions. Un célèbre physicien disait, pour moi, Dieu, il se trouve dans l'énigme du Big Bang, dans 0001, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et le vrai problème, c'est que Dieu existe, Dieu n'existe pas, impossible de le dire. Impossible. Par contre, je sais qu'au nom de Dieu, qu'est-ce que ça fait de mal? Et moi, je dirais, je vais faire choquant, j'appelle ça les religions meurtrières. Ça fait à un moment donné, imaginez un instant qu'il n'y a pas de religion. Admettons. Au nom de quoi on va se tuer? Je prends un exemple. Demain, je voudrais voler la montre de Christos. Peut-être que je peux faire du mal à Christos, voire assassiner un coup de bat de baseball, mais je vais faire un meurtre. La religion, c'est le seul domaine où on est capable de tuer des gens qu'on ne connaît pas. Je pense en septembre, vous imaginez. Je suis bien, j'ai une vie aisée, j'ai mes parents millionnaires, je fais des études en Allemagne, et je vais décider de tuer des femmes, des enfants et des individus que je n'ai jamais croisés de ma vie. À part la religion, on n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable. On peut tuer 5, 10 personnes. Bon,
tout en adorant le même Dieu que les autres.
Tout en adorant le même Dieu que les autres. Autrement dit, ce qui est intéressant, et c'est ça le secret ultime, c'est qu'au-delà de Dieu, qui est un véritable problème, c'est les notions messianiques qui sont terrifiantes. Chaque religion a développé, chacun à son niveau, une idée messianique. Par exemple, vous avez, j'ai beaucoup étudié le Coran, il y a le retour du Mahdi, du Messie. Les chrétiens attendent le retour de Jésus. Les juifs attendent l'arrivée du Messie qui n'est jamais arrivé. Comment ?
C'est même pas.
Oui, mais attention, c'est pas au nom de Dieu qu'on se tue, c'est au nom de notre vision du Messie, c'est pas la même chose. Je prends l'exemple qui me plaît beaucoup. J'ai beaucoup travaillé sur la Seconde Guerre mondiale, qui est mon sujet de prédilection. Je fais d'ailleurs un séminaire à Marseille, à l'université là-dessus. Quand le nazisme est arrivé, on peut dire ce qu'on veut, les Allemands, à tort ou à raison, ont imaginé Hitler comme un messie. Comme un messie. Les jeunes hitlériens, les jeunes enfants, au lieu de dire notre père qui est aux cieux, Hitler qui est aux cieux, quand il est sorti, comme ça. Messie, nation messianique. Et vous avez eu deux nations, l'Union soviétique et le nazisme, avec ce qu'on appelle les nations sans Dieu, et avec des notions messianiques. Ce qui veut dire que plus meurtrier encore, et ça c'est l'aboutissement de ma réflexion, plus meurtrier que la notion de Dieu, c'est la notion messianique qui ne figure même pas en tant que telle dans les textes bibliques. Autrement dit, on se tue pour une notion qui n'existe même pas dans les textes sacrés. Encore, on se dirait, je vais me tuer pour un Dieu. Bon, on peut discuter ce même Dieu, on n'est pas d'accord, ok. Mais je vais me tuer, ou je vais tuer des millions de gens, voire des dizaines de millions de gens, simplement parce que j'ai une conception du Messie, qui n'est pas la vôtre. Et cette notion du Messie n'existe même pas dans les textes. Vous la trouvez nulle part. Donc je vous mets au défi, j'ai eu en large, en travers, dans la Bible, vous ne le trouvez pas. Il n'y a pas de notion du Messie. Et c'est à cause du Messie que vous avez les grandes divisions, alors, y compris judaïsme et christianisme, et dans, au sein du christianisme, les Ariens, pas les Ariens avec les nazis, mais A-F-I-E-S, avec des dizaines de sectes. Et on s'est tué pour des notions d'interprétation du Messie. Fantastique. Et là, je me suis dit, à un moment donné, où l'espèce humaine est stupide, où il y a un gros problème. Et ça, c'est fascinant. Autrement dit, oui, en affinant, les notions messianiques sont capables de tuer et d'exterminer des dizaines, voire des centaines de millions d'individus. Simplement pour quelque chose dont on ne trouvera jamais trace. Pas que Dieu, peut-être qu'un jour on trouvera peut-être le Messie. C'est une autre histoire.
Mais Georges Lemaître,
oui,
qui a été l'introducteur du concept de Big Bang, qui était un chanoine, éminemment religieux, a toujours fait la distinction entre le côté scientifique et le côté religieux. Et a toujours refusé aux autorités religieuses, puisqu'il a quand même été le président de la commission scientifique du Vatican.
Tout à fait.
Et il a toujours tapé sur le pape en lui disant « Non, monsieur le pape, ne confondez pas. Ma théorie n'est pas une théorie scientifique qui va justifier Dieu. Ce n'est pas un Dieu de la science. Le Dieu, moi je le respecte parce que je suis chrétien, disait-il, mais c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le Big Bang. »
C'est ça. Je suis d'accord.
Et la science n'est pas là pour justifier Dieu que ce soit.
Tout à fait. La science est là pour expliquer
les choses. Elle a expliqué la nature.
Point. Et le grand danger, et ça c'est très important, ça c'est un danger qui nous guette tous. Et je le vois notamment au niveau des écrivains. Beaucoup d'écrivains vont écrire des articles de magazines à charge. Je prends un exemple. Je prends un sujet qui me tient à cœur. C'est pour ça que moi je suis un militant de la zététique. C'est-à-dire que d'être factuel et de tout vérifier. En clair, je prends un exemple populaire. La mort de Diana. Bon. Je vais être franc. Demain je fais un livre. Le complot qui a tué Diana. Et je vends 1 million d'exemplaires. Maintenant je fais un livre. Diana est morte bêtement dans l'accident de voiture, je vends 2 exemplaires, dont un pour moi, que j'ai acheté. Ce qui veut dire que les gens, c'est le côté politique, ont besoin de théories de complot. Ce qui veut dire que la science, et moi j'aime le côté factuel, c'est-à-dire que de vérifier toutes les sources. Pour préparer l'exposé d'aujourd'hui, comme pour préparer d'autres exposés, je croise toutes les sources. On peut toujours se tromper. Mais à un moment donné, à force de croiser les sources dans le côté zététique, le côté factuel, je dis voilà, le livre me dit blanc. Peut-être que je me trompe, je regarde un deuxième livre, blanc. Je vérifie s'il n'y a pas des anomalies, des incohérences, etc. Et plus on croise, et moins on peut se tromper. Or, le plus important, c'est que la science, elle, et ça c'est le reproche que je fais à certains archéologues, ils vont faire des livres orientés. Donc tout ce qui va dans le sens où les archéologues permettent de découvrir Dieu, je le mets en exergue. Tout ce qui va à l'encontre de ma théorie, je le mets de côté. C'est facile. Alors moi, dans ce cas-là, je vais mettre un livre « Comment conquérir la planète Mars en 2019 ?» et tout ce qui va à l'encontre, les problèmes techniques, les problèmes, je le mets de côté. C'est la malhonnêteté intellectuelle. Oui, mais justement, maintenant, de plus en plus, j'ai cette exigence, parce que précisément, une fois, je me suis trompé. J'ai un livre séduisant, au hasard, ça n'a rien à voir, c'est l'affaire Dominici. Et le livre était tellement bluffant, j'ai dit, qu'est-ce que c'est beau. J'étais conquis, j'étais jeune et naïf à l'époque. Et je sors la conférence, un grand succès. Le livre est adapté à la télévision, avec Michel Serrault et Michel Blanc dans les rôles principaux. Un carton plein, en gros, 1 Français sur 2 a vu le téléfilm. 1 sur 2, une affaire vieille de 60 ans, ça veut dire que tout le monde, jeune génération et plus, ont regardé cette affaire. Et là, on voit les incohérences. Le bonhomme a inventé les faits. Inventé. Dans le journal Le Soir, en 55, c'est marqué cela en page 3. C'est grave. Et à un moment donné, il raconte des éléments non probants, non prouvés, non démontrés. Tout simplement, la faute que j'ai commise, je suis basé sur un livre. Il faut tout croiser. Alors, il y a des affaires où on peut tout vérifier. Au hasard, une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre, si vous m'avez assisté, c'était l'affaire du pullover rouge, où, sans aucune modestie, parce que j'ai tout lu, tout vu, on sait qu'est-ce qui s'est vraiment passé. L'affaire Dominici, On ne connaît pas le coupable exact, mais on sait que c'est une affaire de famille, qu'on ne veuille pas. On ne cherche pas pendant des heures à récupérer les douilles dans le terrain à 150 mètres de la ferme si vous n'êtes pas de la famille. Vous ne faites pas ça pendant des heures. Moi, je fais un acte délictueux, je m'en vais. Or, on n'a pas eu le bon moteur derrière. Et la troisième affaire, où j'espère qu'on aura le temps de le traiter ici ou ailleurs, c'est qui a vraiment assassiné Kennedy, une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre, où on a des réponses américaines intéressantes pour le centenaire de la naissance de Kennedy, le centenaire, 1917-2017. À part ces trois affaires, l'homme sage est celui qui connaît ses limites. On dit pour Marianne Monroe, c'est vrai, j'ai mon idée, mais c'est une conviction, donc je ne vais pas l'imposer aux autres, j'en sais rien. Mais quand vous arrivez à croiser toutes les sources, avec le fruit de dizaines d'années d'expérience, où je me suis planté, je me suis trompé, j'ai fait des erreurs, j'ai fait du surmesure, etc., à un moment donné, il y a des raisonnements qui arrivent. Et ça, je vous conseille vivement. Alors, il y a une histoire qui peut aller dans ce sens. C'est un livre que je vous recommande, qui s'appelle Nostradamus, le mythe et la réalité, où un membre de l'Institut arrive enfin à démystifier Nostradamus et donne une explication qu'on n'avait jamais entendue et qui sera assez décisif le jour où on en parlera ensemble.
Très bien.
Voilà. Merci à vous.